Bien, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Matthieu, toujours avec ces textes autour de Noël. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Et on va lire à partir du verset 13. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 13, c'est un texte qui suit l'histoire des mages, la visite des mages à Bethléem. Et vous vous souvenez de l'histoire, hein, les mages viennent d'Orient, ils viennent pour voir le roi des Juifs qui vient de naître, qui vont à Jérusalem. Ça tombe, il rencontre Hérode, Hérode et tout le peuple, tout Jérusalem avec lui est troublé, nous dit la Bible. Et puis Hérode appelle les scribes qui disent que c'est à Bethléem que le prophète Michée a dit que le Messie devait naître. Et il envoie donc les mages en disant, allez, prenez des nouvelles sur le lieu, etc. Et puis revenez me voir afin que moi-même aussi je puisse aller l'adorer. Mais la Bible dit au verset 12 que les mages sont divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnent leur pays par un autre chemin. Et puis verset 13, il dit, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Verset 17. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à sa vie, à la vie du petit enfant, sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée, à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète et par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Voilà, donc on voit ici dans cette histoire quelle personne est importante, hein. C'est le petit enfant. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, mais il est beaucoup dit, plusieurs fois dit, le petit enfant. Et même le petit enfant est mis avant la mère, hein. Ce n'est pas la mère et le petit enfant. Joseph prit la mère et le petit enfant, mais Joseph prit le petit enfant et la mère, hein. Et c'est dit plusieurs fois. Il est dit, Hérode veut tuer, pas la famille, mais il veut tuer le petit enfant. Donc c'est le petit enfant qui est le Messie, bien sûr, qui est au centre de tout cette narration. Et c'est de lui dont il est question. Alors, en passant, on peut dire que c'est important, hein, quand on lit l'histoire de Noël, c'est vrai qu'on a, il y a beaucoup de personnages, c'est vrai que c'est bien de les étudier, de les voir, mais il ne faut pas oublier de le faire en perspective et en rapport avec celui dont il est question ici, hein. En général, c'est vraiment Jésus, hein, le Messie. Donc, c'est important pour nous aussi de considérer cela. Et les versets 13 à 23 que nous avons lus, c'est une petite succession d'histoires, hein. On pourrait dire l'exil de Jésus en Égypte, le massacre des innocents, hein. Et puis ensuite le retour de Jésus avec ses parents. Et donc Matthieu raconte plusieurs petites histoires, et puis chaque histoire, vous avez remarqué, se termine avec une citation prophétique, hein. Donc il le fait déjà même au chapitre 1, hein, en citant Ésaïe 7,14, on avait dit cela, hein, en Matthieu 1, verset 23. Il le fait en Matthieu 2, verset 6, que nous avons considéré la dernière fois, en citant Michée 5, pardon, verset 2. Il le fait en 2,15, après avoir dit que Joseph doit partir en Égypte, en citant le prophète Osée. Il termine le récit sur la colère d'Hérode et le massacre des enfants, et les pleurs qu'on a entendus en citant encore une prophétie du prophète Jérémie, il le dit ici, donc en chapitre 2 et au verset 17. Et puis en 2,18, là c'est un peu plus flou parce qu'il dit les prophètes. On ne sait pas exactement, on ne peut pas préciser vraiment, mais il cite encore, il parle du retour à Nazareth en disant que ça s'est produit afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Le récit qui va retenir un peu notre attention est celui de un peu de la fuite, un peu en Égypte, dont Matthieu parle ici. Et on va essayer de. Ce qu'on veut faire, c'est juste méditer un peu ce passage et voir quelles applications, quelles leçons on peut tirer aussi pour nous sur ce qui se passe. Parce que bon, la Bible dit, le texte dit beaucoup de choses, mais peut-être on peut voir quelques leçons, deux, trois leçons qu'on peut tirer aussi pour nous. La première chose qu'on peut remarquer ici. C'est concernant le Messie, puisqu'il s'agit du petit enfant. Hein, l'ange apparaît en songe à Joseph, ici, si vous regardez, et puis il dit à Joseph de partir, de fuir même, hein, de fuir en Égypte, parce que Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. On pourrait dire que le Messie est en danger quelque part. Hein. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Mais depuis que Dieu a fait la promesse dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas, que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, eh bien, je crois que la venue du Messie a été toujours plus ou moins surveillée. Et quand on a pensé qu'elle était quelque part, elle a essayé d'être détruite. Hein. Et le peuple de Dieu a souffert, le peuple Israël a souffert beaucoup parce que de lui doit naître le Messie, et le diable a tout fait, n'est-ce pas? Et les hommes, les politiques, le pharaon en Égypte, ils ont tout fait pour essayer de détruire ce Messie, d'essayer d'annuler cette promesse qui avait été accomplie. Et ici, encore, on a avec Hérode cette tentative de détruire vraiment celui qui est le Messie. Il s'enquiert, c'est ce qu'on dit, hein, je crois. Est-ce plus, hein? Tiens, il y a un Français parmi nous, bon chic, bon genre. Alors, il s'enquiert de ce que les. Que les auprès des mages, en tout cas, de ce que. À quel moment l'étoile a apparu pour pouvoir bien calibrer à quel âge pourrait avoir l'enfant. Et puis, et il le fait. Pas lorsque il a été, comment dit, le texte dit, quand il a vu qu'il a été joué par les mages, il l'avait déjà fait avant que les mages n'aillent à Bethléem. Donc, on pourrait même supposer qu'il avait déjà un peu sa petite arrière-pensée au cas où, hein, il s'était déjà mis dans la tête d'accomplir des choses contre le Messie. Mais ce que l'on voit surtout, c'est vraiment la puissance de Dieu, enfin, comment il garde sa promesse, comment il garde son Messie. Et ça, c'est quelque chose qui est encourageant ici. Il dit à Joseph, tu vas fuir en Égypte. Et quand on lit ce passage, partout on voit l'intervention de Dieu. Partout on voit l'intervention de Dieu qui est là et qui intervient à la fois de manière surnaturelle, on pourrait dire. On peut dire que l'apparition d'un ange, c'est quelque chose surnaturel, mais bon, mais en même temps, de manière le plus souvent naturelle. Et donc, il dit à Joseph de fuir, c'est-à-dire de se sauver, de chercher la sécurité quelque part en fuyant. Et cela exige, bien sûr, un déplacement le plus discret possible. Joseph doit faire attention. La Bible dit qu'il part de nuit, peut-être pour éviter d'être vu. Il prend la fuite et Dieu l'envoie en Égypte, pour qu'il puisse se réfugier là-bas. Mais on voit que Dieu prend soin du Messie, qu'il protège le Messie, qu'il protège la postérité, cette postérité qui avait été promise. Et on pourrait lire l'histoire dans l'Ancien Testament et voir à plusieurs endroits comment Dieu a protégé, comment Dieu a fait. Quand Joseph, par exemple, hein, quand il revoit ses frères en Égypte, hein, qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit, ne soyez pas peureux, mais dans la crainte en tout cas, parce que c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Et il ajoute, pour vous épargner, pour vous sauver la vie. Et donc c'est une manière que Dieu avait prévu cette exil, un peu comme Jésus ici, cet exil en Égypte aussi, pour pouvoir sauver la vie, pour pouvoir sauver cette postérité, la garder. Et Dieu est puissant pour le faire. Mais ce qui m'intéresse surtout ici, c'est comment Dieu le fait. Comment est-ce que Dieu protège l'enfant Jésus? Comment est-ce qu'il protège celui qui est le Messie? On pourrait se poser la question, il aurait pu le faire de plusieurs manières différentes. Il aurait pu faire qu'il disparaisse dans un tourbillon et puis qu'il soit transporté en un instant à un autre endroit. Ou simplement, lorsque Hérode vient le chercher avec son armée, bien que les gens tournent leurs épées les uns contre les autres et puis qu'ils s'entretuent, je ne sais pas. C'est arrivé dans l'histoire du peuple d'Israël. Il aurait pu faire de manière miraculeuse les choses. Et je pense que si il nous avait été donné d'écrire un film ou à des gens d'écrire des films sur comment Dieu préserve, etc., je pense que les premières choses qui seraient venues à notre esprit, ce seraient des miracles, des choses extraordinaires que Dieu aurait pu faire pour garder son Messie. Mais ici, il dit à Joseph, prends la fuite. Et Joseph doit lui-même... Alors, il intervient par un songe, d'accord ? Joseph a un ange qui lui parle dans un songe, mais il doit tout faire. Il doit organiser la fuite, préparer les affaires, voir ce qu'on laisse, ce qu'on ne prend pas, etc. Et en fait, on voit que Dieu préserve son Messie, mais en agissant, comment je vais dire ça, de la manière la plus... en laissant plutôt à Joseph la possibilité d'agir de la manière la plus naturelle qui soit. Il a dû réfléchir à ce qu'il doit faire pour pouvoir partir. Et Dieu n'est pas intervenu en faisant quelque chose d'extraordinaire pour que le Messie soit préservé. C'est-à-dire qu'on peut voir ici que Dieu, il n'agit pas en bouleversant toujours le cours naturel des choses. Et on aimerait souvent que ce soit comme cela, hein. Et on aime des témoignages comme cela, où on voit que Dieu est intervenu et puis là, voilà, renverser les choses, etc. Mais la plupart du temps, Dieu, dans son plan, il intervient en composant avec le cours naturel des choses. Quand j'écoutais un prédicateur il n'y a pas très longtemps, et puis il disait, je vous ai remarqué que quand Dieu dit qu'il a vu la misère de son peuple en Égypte. Et puis qu'il est descendu pour le sauver, pour le délivrer. Eh bien, il a envoyé qui? Il a envoyé Moïse. Mais Moïse est venu comme un petit bébé. Il a grandi. Ça a mis combien de temps? 40 ans, juste tout le temps qu'il a passé dans le palais le palais de Pharaon. Et puis Dieu a dit non, c'est pas encore bon, il te manque un petit peu de compétences, on va à l'école du désert, des brebis, etc. Il a envoyé 40 ans encore là-bas. D'accord? Et puis il est revenu vers 80 ans. Okay? Et c'est là que Dieu a commencé à faire les choses. Et en fait, même quand Dieu dit je vais faire quelque chose, hein, c'est pas, il ne le fait pas en bouleversant complètement l'ordre des choses naturelles. Il le fait en suivant et en guidant l'ordre des choses naturelles. Et il montre sa puissance à garder et à préserver au sein même des massacres, au sein même des méchants gouvernants, du cours naturel de la vie. Ça doit être encourageant pour nous, hein, parce qu'on peut être découragé quand on voit les choses qui se passent de manière voilà, difficile autour de nous. Et on dit, mais pourquoi Dieu n'intervient pas? Sous-entendu, pourquoi il ne vient pas d'une manière où il pourrait arrêter ça, de manière presque spectaculaire? Et Dieu n'agit pas, ce n'est pas en général, ce n'est pas en général sa manière d'agir. Il intervient de manière surnaturelle quand il le faut, mais on voit ici que pour Joseph, eh bien, il dit, tu fuis en Égypte avec l'enfant. Et vas-y vite parce que Hérode veut le tuer. C'est quelque chose. C'est-à-dire qu'on a l'impression que si Joseph reste là, Hérode va le tuer. Et Joseph doit obéir, il doit s'organiser, il doit faire des choses, il doit vivre naturellement, réfléchir à ce qu'il doit faire pour que le Messie puisse être protégé en Égypte. Et Dieu n'interviendra pas pour le faire voler, il lui a pas poussé des ailes, non, il a dû marcher, ça a pris du temps, etc., pour qu'il arrive jusqu'à là-bas. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour nous, montrer comment Dieu garde les choses. Il les garde en manifestant sa providence sur toute chose. Et on se rappelle de notre leçon, notre vérité sur la providence. Qu'est-ce que Dieu fait dans sa providence? C'est qu'il préserve tout ce qu'il a créé et il dirige. Les hommes dans toutes leurs actions. Et on voit la puissance de Dieu de cette manière de faire. Pour nous, il nous semblerait peut-être plus évident de voir la puissance dans les miracles. Les hommes veulent voir la puissance dans les miracles, mais Dieu montre sa puissance dans la manière avec laquelle il dirige les choses naturelles du monde. Donc quand on voit des gouvernants, ou les guerres, les famines, les épidémies, ou les choses comme cela qui se passent, on est parfois renversé et peut-être troublé profondément. Et il y a de quoi. Mais on ne doit pas oublier, quoi que c'est le frère Jean-Pierre disait la dernière fois, que Dieu règne au-dessus de toutes ces choses et qu'il compose même avec toutes ces choses et qu'il guide toutes ces choses et qu'au travers de toutes ces choses, il est capable de garder son Messie. Tout comme il est capable de garder chacun de ses enfants. Il est capable de garder chacun d'entre nous au milieu des circonstances difficiles en agissant, en composant avec les circonstances difficiles. Il ne cherche la plupart du temps pas à nous épargner les tracasseries, c'est difficile à dire ça, hein, de la vie. Il n'a pas cherché à épargner cela à Jésus. Il a connu les difficultés, les vicissitudes de la vie humaine, mais il a quand même été préservé jusqu'à ce qu'il accomplisse parfaitement son ministère. Ça, c'est une première chose, je pense, qui est bien de considérer quand on regarde ce texte. Même si on voit pour Joseph que plusieurs fois Dieu intervient en songe, hein, à chaque fois qu'on voit que Dieu intervient pour Joseph, il lui parle dans un songe, à travers un ange. En chapitre 1, on voit ça. Au chapitre 2, on voit ça aussi plusieurs fois. Et j'ai trouvé quelque chose qui est intéressant. Quand Joseph revient d'Égypte, regardez au verset 22, Il dit, mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit, Joseph, craignit de s'y rendre, de se rendre en Judée, et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Donc, le premier songe, dans le premier songe, l'ange lui dit d'aller, de retourner, et puis il retourne, il arrive, et il craint d'aller en Judée. Et Dieu considère cela. Même la crainte, vous voyez, même la crainte de Joseph, Dieu compose avec, hein, et puis il reçoit un songe divinement qui lui dit, bon, mais tu peux aller à Nazareth. Et donc on voit ici comment Dieu intervient, et ça c'est encourageant. On n'aura pas toujours un ange qui va nous parler en songe, mais on a toute la parole de Dieu, hein, qui est la révélation entière et pleine, qui nous parle, qui nous indique, qui nous donne les principes que nous devons suivre. Et nous devons croire que nous devons agir naturellement, hein, comme avec bienséance, avec sagesse, mais naturellement, au sein des difficultés, du cours naturel de notre vie, pour accomplir la volonté de Dieu. Une deuxième chose que je voudrais souligner, et que Matthieu dit ici, dans chacun de ses récits, à chaque fois, il le ponctue, il dit, c'est que Jésus est l'accomplissement. Jésus, donc il montre que, donc, premièrement, que Dieu protège vraiment son Messie, hein, dans tout ce qu'il raconte, mais aussi que Jésus est l'accomplissement des prophéties. Regardez au verset 15, il dit, Joseph resta jusqu'à la mort, donc en Égypte, on suppose jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Il y a plusieurs endroits, Matthieu, même concernant la venue de Jésus, son enfance, il dit que les choses se sont accomplies se sont faites de cette manière-là, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Et ici, il cite le prophète Osée, on pense, Osée chapitre 11 et versets 1 et 2. Et il souligne donc que ce que Dieu a dit par le prophète en disant « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte » concerne, est une... Alors, s'accomplit, on pourrait dire plus comme cela, s'accomplit en Jésus-Christ, ou trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Alors, il y a diverses manières de considérer cette prophétie ici. Alors, on peut considérer, comme la plupart des gens, que ce que Matthieu dit, c'est que c'est comme s'il disait que Jésus-Christ va être ramené d'Égypte, parce qu'il va revenir après, hein. Il reste en Égypte jusqu'à ce qu'il reçoive le commandement de revenir d'Égypte, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Mais beaucoup se posent la question, pourquoi est-ce qu'il ne met pas sa citation quand il revient, après, quand il parle du retour, au verset 19, par exemple, lorsqu'Hérode fut mort, un ange du Seigneur lui apparut et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à sa vie, à la vie du petit enfant, sont morts. Et cela se passa afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ça aurait pu être là. Et donc, c'était une question que beaucoup posent. Et certains commentateurs pensent que la place de la citation ici est peut-être une manière de dire que ce à quoi pense Matthieu, c'est ce à quoi pense Joël aussi quand il parle de l'Égypte, parce que quand on lit Joël chapitre 11, plusieurs fois Joël parle de l'Égypte. Regardez Joël chapitre 11 avec moi, Joël chapitre 11. Donc Joël, c'est un petit... Osée, chapitre 11. Il n'y a pas de chapitre 11 dans Joël. Hein. Osée, chapitre 11. Donc, si vous regardez au verset 5, par exemple, il dit, « Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi. » Et puis aussi, au même chapitre qui me semble un peu plus loin, voilà, au verset 11, il dit « Ils accourront de l'Égypte comme un oiseau et du pays d'Assyrie, comme une colombe. Et donc la proximité entre la Syrie et l'Égypte ici est interprétée comme une manière par laquelle Joël dit simplement, Osée dit simplement que, eh bien, l'Égypte n'est pas à considérer ici comme l'Égypte géographique, hein, mais il parle plutôt de la Syrie comme une terre où ils vont subir ce qu'ils ont subi en Égypte, c'est-à-dire de l'oppression. Un peu comme il est dit dans Exode chapitre 20, quand il dit que, quand Dieu dit, je t'ai fait sortir de l'Égypte, de la maison de servitude. Donc l'Égypte est vue comme le symbole d'une terre d'épreuves, de persécution du peuple d'Israël. Et d'ailleurs, donc il y a une manière, on pourrait dire, spirituelle, morale spirituelle de voir l'Égypte, non pas comme un lieu géographique, mais comme un lieu de souffrance. Et on trouve cela ailleurs dans la Bible. Dans l'Apocalypse, par exemple, Jérusalem est appelée Égypte. Quand les deux témoins sont tués, vous vous rappelez, dans Apocalypse 11, je crois, on peut regarder rapidement, hein, Apocalypse 11, verset 7, il dit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme, donc il parle de deux témoins, verset 3, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Verset 7, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, il les vaincra, il les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement, d'autres textes disent spirituellement, Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Donc il s'agit de Jérusalem ici qui est appelée symboliquement ou spirituellement, peut-être vous avez dans votre Bible spirituellement, hein, Sodome et Égypte. Et toujours le lieu où l'on massacre, où l'on tue, où l'on persécute les deux témoins, les enfants de Dieu. Donc certains, tout ça pour dire que certains commentateurs pensent que ce que Matthieu voit ici, c'est qu'il voit, il ne voit pas, c'est pas la fuite en le retour d'Égypte qui est considéré comme, qui est interprété comme j'appellerai mon fils hors d'Égypte, mais c'est plus le fait de le faire fuir de la présence d'Hérode, de la terre d'Israël. À ce moment-là, la terre d'Israël pourrait être considérée comme un lieu d'opposition contre le Messie. Donc Dieu l'enlève de là, il l'appelle de là pour le mettre à l'abri. Donc c'est un petit peu, il l'enlève de l'Égypte, on pourrait dire métaphorique. Hein. Il emploie le terme Égypte métaphoriquement. Mais je pense que la plupart quand même soutiennent le fait que même si Matthieu a mis la citation à ce niveau-là, c'est probablement parce qu'il, comme à chaque fois il ponctue ses narrations avec une citation, c'est parce qu'il avait déjà peut-être une autre citation qu'il veut mettre au retour de Joseph, Marie et Jésus quand ils reviennent d'Égypte et qu'ils arrivent à Nazareth. Parce qu'il dit, ils sont allés à Nazareth afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Et probablement il avait cela déjà en tête et il a mis par anticipation ici cette citation juste avant qu'il ne parte en Égypte et pas après qu'il revienne de l'Égypte. Quoi qu'il en soit, ce qui est important ici à retenir, je pense, c'est que Matthieu voit néanmoins dans le fait que Jésus est, en Jésus-Christ plutôt, l'accomplissement de tout ce qui a concerné la délivrance du peuple d'Israël. Israël, d'accord, on dit souvent que Israël, c'est un type de Jésus. C'est-à-dire Jésus est un antitype d'Israël. C'est-à-dire Israël, c'est l'image, on pourrait quelque part, puis il l'appelle le fils, quelque part. Hein. Jésus appelle Israël, Dieu appelle Israël aussi mon fils. Et regardez en, par exemple, en, où est-ce que j'ai noté ça? En Exode chapitre, je vous lis, hein, en Exode chapitre 4, versets 22 à 23, par exemple, Dieu dit à Moïse, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né, je te le dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Donc on voit ici qu'Israël est appelé aussi le fils de Dieu. Et étant sorti d'Égypte, ce fils-là, il n'a pas été obéissant, comme Jésus l'a été. Et le livre d'Osée, quand on lit Osée, chapitre 11 et toute la suite, on voit qu'il est question de l'idolâtrie du peuple. Il commence avec cet enfant. Osée 11 dit ceci, il dit « Quand l'Éternel, quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte, verset 2, « Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient, ils ont sacrifié au Baal, ils ont offert de l'encens aux idoles. » Donc il parle de ce fils qui a été tiré d'Égypte, rappelle donc un événement qui est passé ici, mais qui n'a pas été un fils vraiment obéissant. Donc ce fils qui a été appelé d'Égypte, il n'a pas été soumis à Dieu et il n'a pas accompli complètement la volonté du Père. Et donc Matthieu voit en Jésus, bon, alors il dit afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé, c'est pas une prophétie prédictive, hein. Ce que Osée dit ici, Osée parle 700 ans après la sortie d'Égypte, et Matthieu cite Osée qui est encore lui-même 700 ans plus plutôt que lui. Donc ce que Matthieu prend ici comme un accomplissement, c'est pas juste une prophétie prédictive, c'est-à-dire c'est pas du style ce qu'il dit dans Ésaïe 7, voici la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils, donc c'est quelque chose qui doit se produire dans l'avenir, mais c'est quelque chose qui est déjà passé et qu'il voit comme une image, hein, comme une image de, qui s'accomplira pleinement en Jésus-Christ. Donc la délivrance d'Égypte est considérée comme une image de la véritable délivrance qui sera accomplie en Jésus-Christ. Jésus est le véritable fils qui a été appelé hors d'Égypte et qui va accomplir toute la volonté de son Père. Israël avait pour vocation de servir l'Éternel et d'être même au milieu des nations celui qui reflète Dieu, qui reflète le caractère de Dieu. Et ça n'a pas été le cas. Jésus, lui, il est le Fils par excellence, celui que Dieu appelle ici et qui va lui-même donc accomplir toute la volonté de Dieu. Donc Matthieu voit dans l'appel du peuple d'Israël à sortir d'Égypte, on pourrait dire ça comme ça, un type de l'appel de Jésus à revenir d'Égypte. Et donc Matthieu dit en substance que Israël est une image, hein, un peu comme on dit dans la Bible, l'ombre, et puis Christ c'est vraiment la réalité. Il est le Fils par excellence, il est le serviteur obéissant. Matthieu 3 dit qu'il est le Fils bien-aimé, ici, qui accomplira toute la volonté de son Père. Et Jésus, hein, rappelez-vous dans sa prière sacerdotale, en Jean 17, il dit quoi ? J'ai accompli tout ce que tu m'as donné à faire. J'ai accompli toute la volonté de son Père. Alors Matthieu ne dit pas bien sûr que Osée avait ça à l'esprit quand il a parlé, mais il dit que Dieu l'avait, parce qu'il dit, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur a annoncé par le prophète. Donc c'est Dieu pour lui qui annonce cela à travers le prophète, même si Osée n'avait pas cette pensée-là lorsqu'il a écrit « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Donc l'histoire d'Israël, on pourrait dire, elle pointe dans un certain sens vers Jésus-Christ, de même que le système sacrificiel, était des choses qui ont été faites, pointaient aussi vers le sacrifice ultime de Christ. C'était donc un type, une image, on pourrait dire, du sacrifice suprême, ultime, de Jésus-Christ. Donc on peut dire que l'histoire d'Israël pointe aussi vers l'histoire de Christ, même si l'histoire d'Israël est une histoire qui a été vécue, qui est circonscrite dans un temps, tout comme les sacrifices maintenant ont été circonscrits dans le temps et dans l'espace. Mais ils annonçaient, on dit souvent qu'ils annonçaient de manière non verbale, vraiment, ce n'était pas une prédiction, ça va arriver comme ça, mais c'était quelque chose qui était là, qui s'est fait et qui allait avoir son plein accomplissement dans la personne de Jésus-Christ. Et donc, dans ce sens, on peut dire que Jésus-Christ accomplit, hein, accomplit, et l'accomplissement de toute la loi de Dieu, de tout ce qui concerne l'Évangile. Voilà, c'est ces deux choses-là que je voulais souligner ce soir, et puis quelques petites applications ici qu'on peut tirer de cela. On peut voir, quand on lit ces récits, on l'a dit tout à l'heure, comment Dieu dirige le cours de l'histoire, hein, que Dieu dirige le cours de l'histoire. Et ça doit, on l'a dit déjà, je le redis un tout petit peu en passant, ça doit nous encourager. Il œuvre, il orchestre toutes choses, et cela se voit tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Quand Matthieu cite même Osée, il montre que Dieu est à l'œuvre dans ce qu'il dit à Osée, mais qu'il est à l'œuvre quand il fait l'accomplissement aussi dans la famille de Matthieu et Joseph, de Joseph et Marie. Et donc il orchestre, il organise, il dirige toutes choses. Ça, c'est une première application qu'on peut voir. Puis une chose qui était importante aussi, c'est que on a tendance à réduire l'Évangile aux Évangiles, hein? C'est-à-dire on réduit l'Évangile à Matthieu, Marc, Luc et puis Jean. Mais on se rend compte finalement, quand on lit la Bible comme cela, que quand on voit les citations que font les auteurs du Nouveau Testament, que l'Évangile, c'est toute l'Écriture. L'Évangile, c'est toute l'Écriture. Il y a un auteur, il disait « Le Nouveau Testament est dans l'Ancien caché, tandis que l'Ancien est dans le Nouveau révélé. » Hein? Il dit que le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien, on pourrait dire ça, hein, quand on regarde l'histoire de Jésus, on dit « Tiens, mais c'est ce qui est caché là, ici. » Matthieu voit, hein, un type de Christ quand il parle de Osée. Et en même temps, on voit dans le Nouveau Testament la révélation de ce qui était annoncé là-bas. Donc, l'Évangile, c'est l'ensemble de l'Écriture. Et donc, c'est important pour nous, hein, de considérer toute l'Écriture et d'apprendre à lire toute l'Écriture et de chercher à comprendre toute l'Écriture. Et Jésus, quand il a reproché aux disciples d'Emmaüs... ils étaient dans le désespoir. Le reproche qu'il leur a fait plutôt, c'est de ne pas avoir cru à tous ceux qui avaient été écrits par les prophètes et d'avoir été lents à croire. Alors parfois on peut dire, souvent on dit, le Nouveau Testament, ça va encore, mais l'Ancien Testament, c'est dur, j'arrive pas. Eh bien, on doit apprendre à tout lire, hein, tout lire, parce que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger. Ça, c'est donc une chose qui est importante que l'on voit ici, quand on voit comment les auteurs du Nouveau Testament prennent l'Ancien Testament, y trouvent Christ. Et je pense que cela nous encourage à lire avec des aides, peut-être pour nous aider à voir ces choses, mais toute l'Écriture. Et puis, je veux dire que l'Écriture est, je ne sais pas comment on veut dire, christocentrique. Hein. Les paroles qui concernent Christ ne sont pas seulement dans les prédiction, par exemple, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, mais elles sont aussi dans les sacrifices, elles sont dans les histoires, dans les événements. On voit ici que la sortie d'Égypte concerne Christ. D'accord? L'établissement des sacrifices, ça concerne Christ, le prêtre aux Hébreux le dit. Donc ce n'est pas simplement lorsqu'un prophète dit quelque chose qui va arriver, que ça concerne Christ, mais dans ce qui se faisait même et qui ne se fait plus, eh bien, il y a aussi Christ qui est annoncé à travers ces choses. Donc, l'ensemble de l'Écriture, on pourrait dire, est christocentrique. Jésus disait en Jean chapitre 5, versets 39 à 40, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi. » Donc, il veut dire quelque part que où qu'on prenne, alors bien sûr, il ne faut pas tirer les choses par les cheveux, mais où qu'on prenne les Écritures, eh bien, dans son ensemble, elle rend témoignage de Jésus-Christ. Et je reprends encore le passage de Luc 24, hein, où Jésus dit aux disciples d'Emmaüs, « Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire et en commençant par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua tout ce qui le concernait dans les Écritures. Donc, autrement dit, Jésus brosse à travers Moïse et les prophètes et il montre que tout cela, eh bien, ça le concerne. Et donc, nous devons lire la Bible avec cette optique-là aussi, en cherchant Christ dans les Écritures. Hein, j'ai un livre que je suis en train de lire actuellement, où le titre c'est « En commençant par Moïse ». Eh bien, c'est une et l'auteur montre comment on doit apprendre à chercher Christ, savoir qui il est pour pouvoir le chercher, le trouver dans l'ensemble des Écritures, et surtout, particulièrement, dans l'Ancien Testament. Voilà, donc cela doit, j'espère, nous encourager, hein, bien sûr, à aimer le Seigneur davantage, à le louer davantage, à le remercier pour ce qu'il a fait, louer Dieu pour sa puissance à garder sa promesse. Et cela nous dit aussi que ce qu'il nous a promis, eh bien, il l'accomplira et qu'il nous gardera comme il l'a promis aussi. Et puis lui demander la grâce de pouvoir aimer sa parole, aimer chercher Christ à travers sa parole et être attentif, hein, à ce que sa parole nous révèle de la personne de Jésus-Christ. On peut être encouragé dans nos circonstances aussi en sachant que Dieu utilise ces circonstances, qu'il œuvre à travers ces circonstances, même difficiles, pour nous garder et pour accomplir son œuvre en chacun de nous. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Nous te demandons de nous aider encore à la comprendre, à la méditer, à l'aimer pour la gloire de ton nom et pour notre bien. Amen. Voilà, quelques minutes.